Chromosome X. Chromosome X, la nouvelle émission LGBT sur Vibration Gay Radio.
Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Chromosome X avec notre équipe habituelle. Nous sommes notamment avec Fanny.
Salut.
Bonjour Fanny, ça va bien?
Oui, ça va super.
On est aussi avec Paul aujourd'hui.
Et bonjour.
Tout va bien aussi, Paul?
Mais ça va, oui, très bien.
Cette émission que nous vivons à l'ASLEC aujourd'hui, on est accueilli notamment par Lionel, parce que Lionel, il fait partie de l'émission, mais tu es aussi donc à l'initiative de cette émission en public ici à l'ASLEC à Sierre.
Tout à fait, bonjour l'équipe.
Bonjour Lionel, tout va bien aussi?
Salut.
Ça va tout très bien, maintenant que la journée est lancée, je vais mieux en mieux.
D'accord, c'est toujours avant. Hein.
Le stress descend.
Exactement, voilà, exactement, ça commence à aller mieux. Donc on est accueilli aujourd'hui à l'ASLEC à Sierre dans le cadre d'une journée de sensibilisation aux conditions des migrants LGBT. Et c'est un sujet qu'on avait d'ailleurs pas encore abordé dans cette émission. On aura donc l'occasion de traiter le sujet notamment avec Eric qui est venu avec des personnes qui sont directement concernées par la thématique. Il y aura aussi Asile LGBT Genève avec David.
Représenté par David.
Oui. Voilà, représenté par David. Lionel qui aura aussi l'occasion de nous parler un petit peu plus précisément de cette journée, puisque c'est toi qui es à l'initiative de ce projet.
En collaboration, oui.
Oui, en collaboration. Mais tu t'es dit, on va faire quelque chose à la SLEC, et puis tout était un peu déjà lancé, donc c'était une bonne solution finalement.
Tout était lancé, puis tout s'est imbriqué par la suite.
Exactement.
Tout très bien d'ailleurs.
Voilà.
Mais j'y reviendrai.
On va aussi revenir justement aussi sur le film qui va être projeté durant la soirée, La Parade.
Oui, tout à fait.
Un film serbe.
Oui, c'est la parade, un film serbe qui traite de la première Pride organisée en Serbie. Et on va voir qu'est-ce qui ressort de ce film et les liens qu'on peut faire avec les conditions actuellement en Suisse.
Très bien.
Les conditions LGBT en Suisse.
Très bien. On aura aussi nos rendez-vous habituels. Hein. Êtes-vous queer avec Paul? Il nous pose toujours cette question dans cette émission.
Oui, je continuerai à la poser encore.
Parfait. On va aussi retrouver notre rendez-vous culte désormais avec notre astrologue pour le sexospoc. Sexoscope.
Oui.
Voilà, exactement.
Elle va arriver.
Jeanne Moru, c'est toujours Jeanne Moru.
Ce sera toujours Jeanne Moru, elle devrait débarquer.
Très bien, très bien. Cinéma avec justement le film de ce soir, La Parade.
J'en parlerai un peu différemment que d'habitude, mais j'en parlerai. Ouais.
D'accord. Emeric sera aussi avec nous de manière virtuelle puisqu'il est absent pour cet enregistrement. On aura quand même l'occasion de parler avec lui de santé sexuelle tout à l'heure. On aura aussi l'occasion de parler juste rapidement de l'agenda d'Alpagay quand même.
Bah oui, quand même.
Il y a la fin de saison qui arrive et il y a plein de choses super qui arrivent aussi.
Oui.
Donc ce sera dans cette émission et puis un programme qui est donc bien rempli comme d'habitude. On se retrouve d'ici quelques instants, juste le temps de retrouver Jamiroquai tout de suite sur Vibration Gay Radio. Bienvenue dans Chromosome X.
You wanna ride? Got to.
Vibration, Gay Radio. Nous sommes ici dans cette émission Chromosome X à La Slack pour une émission spéciale. On parle des migrants LGBT dans cette émission, dans le cadre de cette journée de sensibilisation aux conditions des migrants LGBT, des personnes qui arrivent en Suisse parce que dans leur pays, eh bien, elles sont persécutées, en danger. Sauf que quand elles arrivent ici, les conditions ne sont pas nécessairement meilleures, hein, puisqu'elles se retrouvent dans des centres pour réfugiés et tout n'est pas encore simple, encore une fois. On va donc en parler notamment avec Eric qui est avec nous. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors présente-nous un petit peu en quelques mots qui es-tu et un petit peu ton parcours. Comment ça se fait que tu es impliqué dans cette cause-là?
Alors c'est une bonne question, je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que ça prendrait évidemment beaucoup de temps, mais je représente l'association Vogué de Lausanne dans laquelle je travaille, je suis salarié et j'ai un temps de travail de 20% qui me met en charge d'une ligne qu'on appelle d'accueil et écoute.
Oui.
Et sur cette ligne, je reçois régulièrement, tous les jours presque, des téléphones de personnes diverses et variées, plutôt de sexe masculin, dont l'orientation sexuelle est minoritaire. Et depuis une année et demie, j'ai de plus en plus régulièrement des personnes migrantes qui me téléphonent parce qu'elles ne savent pas où s'adresser pour parler d'elles, pour être écoutées, pour faire part de leur situation. Alors évidemment, elles ont un suivi juridique, une assistante sociale, toute la procédure administrative se met en place, mais ça ne suffit pas, évidemment. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis à me demander et à questionner autour de moi, que ce soit l'association où je travaille ou d'autres milieux, que faire ? Qu'est-ce que je peux faire à part écouter ? Et nous allons parler tout à l'heure, j'ai un collaborateur de Genève, le canton de Genève est un peu plus avancé en ce moment que le canton de Vaud, donc on est sur le point de développer une collaboration pour que nous puissions nous en inspirer à Lausanne et créer un espace réel pour accueillir ces personnes.
Alors justement, on se demande s'il y avait quelque chose qui existait et qui existe, et on est avec le projet Asile LGBT Genève, représenté par David aujourd'hui. Bonjour David.
Bonjour.
Alors justement, quand on entend ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe quand même, qui se met en place. C'est assez récent, ce projet Asile LGBT Genève.
Oui, c'est récent, ça a commencé en janvier 2016. En fait, ça a fait suite à l'agression d'un migrant LGBT dans un centre d'accueil à Genève, qui a fait prendre conscience à la coordination Asile Genève de la problématique spécifique des LGBT. Et du coup, le projet a commencé en janvier avec une étude sur 9 mois qui a voulu essayer de comprendre quelle était la spécificité de la problématique LGBT des migrants, et puis ensuite qui a essayé de mettre en place quelques recommandations, et il y a des actions qui se sont faites, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler.
Justement, on va en parler un petit peu maintenant, puisque en effet, j'imagine que maintenant, les choses sont en plein développement. C'est assez récent quand même, début de l'année. La problématique, elle existe depuis un certain temps, j'imagine quand même. Comment ça se fait qu'on arrive seulement à ce moment-là?
Je crois que le problème vient du fait qu'il y a pas mal de gens qui gravitent autour de l'asile, des travailleurs sociaux, des infirmiers, des gens qui travaillent pour la Confédération, pour le canton, qui font les entretiens pour savoir si les réfugiés peuvent rester ou pas. Tous ces gens qui gravitent autour du secteur de l'asile sont souvent très peu sensibilisés à la question LGBT. Puis surtout, quand on leur en parle, ils disent « mais je ne vois pas en quoi c'est une thématique particulière ». Finalement,
ils ne comprennent pas qu'il y a des besoins spécifiques. C'est ça, hein, le message que vous
voulez. C'est un paradoxe, et ils disent pour nous, tout le monde est traité à la même enseigne, il n'y a pas de différence. Et c'est là où le projet Asile LGBT Genève essaye de montrer qu'il y a des différences, qu'il y a des besoins spécifiques, qu'il y a une attention particulière, parce qu'il y a un risque beaucoup plus élevé d'isolement, de violence ressentie ou de violence vécue.
Quand ils arrivent ici, ils arrivent un petit peu fondus dans une masse, finalement.
Ils arrivent avec souvent cette peur qu'ils ont au milieu de leur communauté, qui devrait être en quelque sorte leur centre d'appui ou sur lequel ils peuvent s'appuyer parmi leur communauté, de leur pays, de leur religion, de leur groupe social d'où ils viennent. Et bien là, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont ce secret qu'ils ont caché pendant tant d'années, cette difficulté qu'ils ont à parler de cette problématique d'orientation. Et avec le projet Asile LGBT, l'idée c'est de leur donner une voix, de leur donner une possibilité d'exprimer leurs besoins spécifiques, mais aussi de sensibiliser tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'asile
dans l'asile,
au fait que cette question elle existe et elle est présente. Et je crois que Eric
il a
senti le même, voilà, il a senti la même, le même besoin du côté de du canton de Vaud.
Oui, alors je pense, moi je vais m'inspirer un petit peu d'une étude qui est sortie au mois de septembre l'année dernière, qui a été réalisée par Anarvi à Genève, où elle explique très bien que, effectivement, toutes les personnes migrantes sont en difficulté dans notre pays, tant qu'elles n'ont pas obtenu l'autorisation d'y vivre, en tout cas en attendant que la situation s'améliore dans leur pays. Mais cependant, il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont supplémentaires pour les personnes migrantes LGBT. Je vais juste en dire deux mots. Par exemple, pour les personnes migrantes en général, une faible connaissance de la langue, des traumatismes liés à des persécutions passées, une incertitude quant au résultat de leur demande d'asile, etc. Je pourrais encore en citer beaucoup. Pour les personnes LGBT, le sentiment de honte, la non-acceptation de soi, l'isolement social et émotionnel, les troubles d'ordre psychologique, les infections sexuellement transmissibles, etc., etc. Donc on voit très bien qu'il y a des facteurs supplémentaires de vulnérabilité qui ont des conséquences sur ces personnes, notamment au niveau psychologique et parfois au niveau physique. Il n'est pas rare que des personnes viennent me voir et me montrent des anciennes cicatrices suite à des persécutions qu'elles ont vécues dans leur pays.
Oui. Alors, on va pouvoir peut-être présenter aussi, vous êtes venu justement, Eric, avec deux personnes qui sont des migrants, qui sont réfugiés ici en Suisse. Vous êtes venu avec qui? Vous pouvez nous dire un petit peu les...
Je vais leur demander.
Oui, c'est le plus simple, absolument.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Larbi de Tunisie.
Enchanté.
J'ai 3 ans.
Bonjour, moi je suis Alexandrine, je viens du Bénin. J'ai 40 ans.
Enchanté. Merci de venir en tous les cas, parce que j'imagine que ça aussi c'est un pas de venir dans une émission comme ça, venir un petit peu parler de ce qu'ils vivent. On va surtout parler de ce qu'ils vivent ici, ça c'est quand même le plus important. Alors justement, comment Eric, tu as pu les rencontrer et puis comment ça s'est passé? Quel lien tu as avec ces personnes-là?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs voies pour arriver jusqu'à cette ligne d'accueil écoute voguée. Ça peut être, par exemple, des infirmières de l'hôpital cantonal qui ont affaire à des personnes migrantes et qui ont l'intelligence et la subtilité, je tiens à le dire, même si elles ne sont pas formées spécifiquement, à poser des questions délicatement et à percevoir cette notion d'orientation sexuelle qui n'est pas majoritaire. Et du coup, elles arrivent, elles vont sur Internet, elles voient qu'il y a le numéro de cette ligne accueil écoute, et du coup, c'est comme ça qu'elles m'appellent ou qu'elles donnent le numéro à la personne qui prend contact avec moi. Ça peut être des assistantes sociales, ça peut être des gens de l'EVAM, et voilà, donc il y a vraiment différents moyens d'arriver jusqu'à cette ligne.
D'accord, et puis alors justement, comment ça s'est passé avec les personnes ensuite que tu as en ligne? Quel soutien tu leur amènes? C'est des soutiens, j'imagine, peut-être administratifs ou certaines choses comme ça aussi, ou pas du tout?
Alors d'abord, je tiens à exprimer que pour l'instant, je suis très démuni.
Ouais, c'est surtout de l'écoute alors.
Alors pour l'instant, j'en suis à déjà accueillir, écouter, prendre le temps d'écouter et puis à construire un lien. Parce que ce qui se passe souvent chez les personnes LGBT, lorsqu'elles s'adressent à des associations, avec la volonté de s'intégrer, avec la volonté de rencontrer des personnes, de lier des contacts, c'est que on les accueille en leur demandant « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Ça crée déjà quelque chose d'assez particulier. Et moi, je fais comme ça d'abord.
D'accord.
Mais ensuite, je peux, par exemple, contribuer à aider dans des démarches administratives auprès du service d'État à la migration à Berne, par exemple, ou auprès du service de la population à Lausanne, en accompagnant dans des rendez-vous. Mais ça peut être aussi aller sur le lieu de vie. Ça peut être aussi référer à un psychiatre ou un psychologue ou à un service spécialisé pour prendre en compte, mettre sur pied un suivi psychologique, une psychothérapie suite à
c'est faire
des
les liens finalement.
C'est ça. Alors on va dire les choses de manière professionnelle, c'est du basseuil. Mais quand je dis basseuil, ça veut dire que je suis aux premières loges et qu'ensuite je vais orienter, réorienter les personnes dans les services qui pourraient leur apporter une aide.
Alors on peut venir du côté de David. Vous entendez notamment ce que peut dire Eric. Vous êtes à quel niveau dans cette chaîne, on va dire?
On est peut-être un poil plus avancé à Genève, mais c'est pour ça que Genève va soutenir Vaud dans sa démarche. Et je pense que ça sera très bien qu'on ait des synergies dans nos approches pour tenir compte de notre expérience. À Genève, un certain nombre de points qu'Éric vient de relever, il faut bien le reconnaître, c'est partout le cas en Suisse, ça concerne tous les migrants et les personnes en situation d'asile, réfugiés ou non. Ils ont besoin de conseils administratifs ou en lien avec tous ces
états. Vous êtes aussi en lien directement avec les personnes, c'est ça ? Elles arrivent directement, alors, elles sont redirigées chez vous ?
Alors chez nous, à Asile LGBT Genève, c'est plus pour la question relative aux problématiques qui sont autour de l'orientation ou de l'identité de genre.
D'accord.
Parce que pour le reste, pour les questions de savoir quel type de permis elles peuvent avoir, dans combien de temps il y aura eu le deuxième entretien, le premier, si elles sont déboutées, comment faire recours, toutes les démarches administratives qui sont en lien avec l'asile, elles l'obtiennent à travers la coordination Asile Genève et à travers l'appui qui est fait par l'Hospice Général. Il y a des travailleurs sociaux encore qui peuvent être rencontrés, il y a des juristes, il y a des avocats que les réfugiés peuvent aller rencontrer. Dans le projet Asile, c'est vraiment offrir une possibilité d'aller discuter d'un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus en lien avec l'orientation sexuelle ou avec l'identité de genre.
Ça aussi
Alors, oui, j'ai encore juste quelque chose à dire qui me paraît extrêmement important. Nous ne l'avons pas cité au début. Je pense que c'est important de le faire. Il faut savoir que dans 7 pays du monde, l'homosexualité est punie de la peine de mort. Dans 30 pays, elle est punie d'une peine supérieure à 10 ans de prison. Et dans 90 pays, elle est réprimée par la loi avec de l'emprisonnement. Et dans ces pays, si la loi ne fait pas ce job, c'est la population qui s'en charge par des lynchages, par des persécutions diverses et variées dont je ne vous décrirai pas, mais j'ai des images que je pourrais vous montrer qui vous permettraient de vous rendre compte quelle abomination on vit dans certains pays du monde. Et je tiens à dire, et je ne suis pas du tout islamophobe, que les pays dans lesquels la peine de mort est de rigueur pour les personnes LGBT sont des pays musulmans.
Voilà. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au niveau de ces questions donc d'asile, la Suisse est censée aussi reconnaître les personnes qui viennent de ces pays avec ces problématiques LGBT en disant elles sont en danger, elles sont en danger dans leur pays. C'est ça, quand on est réfugié ici, on les accueille parce qu'il y a un danger.
Et je crois que c'est très important de le dire aussi, que le service d'État aux migrations n'a pas de fiche pays concernant...
Voilà, c'est ça.
Concernant les peines qui sont données aux personnes LGBT parce qu'elles sont avec une orientation homosexuelle.
Et je pense qu'il y a aussi ça, il y a aussi une aide pour dire à ces personnes qui arrivent ici, elles sont en danger dans leur pays, mais les autorités suisses ne le voient pas vraiment comme ça.
Alors dans les statuts qui permettent, dans les critères qui permettent d'obtenir le statut de réfugié, la question de l'orientation ou de l'identité de genre, elle n'est pas mentionnée telle quelle, mais elle est mentionnée à travers la notion d'appartenance à un certain groupe. Il y a 5 critères qui peuvent être pris en compte pour obtenir le statut de réfugié. C'est si on est persécuté en raison de sa couleur de peau ou de son ethnie, si on est persécuté en raison de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques et, dernier point, d'appartenance à un groupe social minorisé ou mis en danger. Et c'est là-dedans que rentrent les personnes qui ont été persécutées dans leur pays pour des questions d'orientation de genre ou d'orientation sexuelle ou d'identité de genre et qui cherchent en Suisse une protection, en fait.
Et est-ce que ça, mais comment on fait pour ensuite, parce que j'imagine qu'une administration cherche à prouver, cherche à être sûre que tout ça soit vrai.
Ouais, alors le fardeau de la preuve, il est sur les épaules du migrant. C'est lui qui doit apporter la preuve. Hein. C'est lui qui doit démontrer en quoi il était mis en danger. Et c'est ça qui est difficile parce que souvent il a pas du tout envie de le dire quand il arrive et souvent pas au premier entretien et souvent pas devant un traducteur qui vient de son propre pays.
Ouais. Et puis, est-ce que vous connaissez, par exemple, des personnes qui auraient fui leur pays parce qu'elles sont heureuses dans leur pays, parce que tout se passe bien, parce qu'elles vivent bien leur orientation, parce qu'on les accepte ? Non, ça n'existe pas. Et pourtant, on met en doute, parce que la plupart des personnes que je côtoie dans ce domaine depuis une année reçoivent des réponses négatives à leurs demandes.
Oui, tout à fait.
Elles sont déboutées.
Mmh. Malgré, en effet, le danger qui existe. Là, est-ce que vous avez une part à... Vous pouvez faire quelque chose ? Est-ce que l'objectif est de pouvoir faire quelque chose ?
Ce que je proposerais, c'est que Alexandrine en parle un petit peu, parce que on est en ce moment exactement dans cette situation. Est-ce que ça irait pour toi de raconter un petit peu comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ?
Moi, je suis en Suisse il y a bientôt 3 ans. Tout au début, ça m'a été très très difficile parce que je fus un cas Dublin. Donc du coup, j'étais déboutée et avait un délai restreint de quitter la Suisse. Donc du coup, je me suis vite retournée vers beaucoup d'associations qui m'ont ouvert leurs portes, m'ont écoutée, m'ont soutenue sur tous les plans. En septembre de l'année dernière, ils ont accepté ma demande d'asile finalement. Et là, j'ai obtenu le permis N. Le mois dernier, j'ai reçu la convocation de Berne et j'ai fait part de cela à Eric, qui était prêt à m'accompagner à mon audition. Donc, le 16 mai, on était à l'audition. Pour moi, tout s'est très, très bien passé. Malheureusement, j'ai reçu la semaine dernière une réponse négative et une deuxième fois le droit de quitter la Suisse.
D'accord.
J'avais 5 jours pour faire un recours. Et voilà, avec mon juriste, ma doctoresse, Eric aussi, qui m'a fait une lettre. Et puis ces associations, bon, tous, j'avais quand même une trace de tout ce que j'ai connu comme parcours en Suisse. Donc, il y a tous ces documents qui parlent. Donc, voilà, le recours a été fait le mercredi passé. Donc, voilà.
C'est un long combat, c'est un très long combat. Hein.
Tout à fait.
3 ans et encore, il faut continuer encore ce combat-là. Les associations et tout ça vers lesquelles vous êtes retournées sont importantes?
Bien sûr, parce que sans ces associations, je ne pense pas qu'aujourd'hui je serais devant vous, avoir le courage de pouvoir dire devant tout le monde, sinon...
Ça fait plaisir en tout cas, Eric, ça touche. Ouais. Comment ça se passe quand la première fois vous partez, vous arrivez en Suisse, vous dites c'est bon, ça va être facile, ici c'est un pays où on va pouvoir m'accepter enfin, ou bien comment, vous avez pensé que ça allait être si difficile?
Quand on quitte son pays, ce n'est pas, on se dit bon voilà, je vais en France, je vais en Suisse, je vais en Allemagne, ce n'est pas ça. La première chose qu'on cherche en quittant son pays, c'est la sécurité et la protection. Parce que moi, personnellement, j'ai pris par l'Allemagne. Je ne pouvais pas demander l'asile là-bas. Je me suis retournée vers la Belgique. Ils m'ont accordé 1 mois au foyer. Et puis après les 1 mois, je devais quitter la Belgique. C'était un renvoi vers l'Allemagne.
Ah oui,
pays d'accueil. J'ai dû quitter la Belgique pour venir en Suisse. Alors, ça fait déjà 3 pays.
Oui.
N'étant pas touriste, je me suis dit, bon, je prends plus la valise. Il faut que je lutte, il faut que je me batte pour aller jusqu'au bout. Raison pour laquelle je suis toujours là et je lutte pour avoir gain de cause. Merci. Oui.
On s'attend à la protection quand on arrive en Europe, c'est ça. Et puis finalement, on se dit, le combat, il est énorme.
Ouais.
On sent en tous les cas les années de combat là derrière. Hein, vous avez donc, j'imagine que c'est pas un cas isolé. On a aussi donc une autre personne que vous avez amenée avec vous, la Tunisie. Là, c'est aussi quelque chose de compliqué. Là, vous en êtes à quel stade?
Alors, en Tunisie, il faut savoir qu'on a attribué un prix Nobel de la paix ou quelque chose de cet ordre-là il n'y a pas longtemps, mais on a effacé, zappé, oublié qu'il y avait un article qui s'appelle l'article 230 qui fait que ce pays condamne les personnes LGBT à un minimum de 3 ans de prison.
Oui, c'est ressorti ça dans la presse, on l'a vu de nouveau, en effet, il ne faut pas l'oublier.
Voilà, donc on courtise pas mal la Tunisie en ce moment, avec le printemps, avec enfin, l'espoir d'une démocratie naissante, etc. Mais cet aspect des choses, cet article-là, on n'y touche pas. c'est vraiment, on pourrait presque dire, un tabou de l'enlever. Et des personnes en sont évidemment, en payent les frais, et c'est notamment le cas de l'Arbi qui est ici avec nous.
Alors vous en êtes à quel stade avec l'Arbi?
Alors on va lui demander, je pense que lui va mieux s'exprimer que moi, mais il y a juste une petite réserve, c'est qu'il préfère parler en anglais.
C'est ce qu'on va faire.
Une personne qui va pouvoir traduire ses propos.
Paul va traduire.
Je vais m'occuper de la traduction.
Alors we can do it in English.
Okay.
And I will translate. So be slowly and I will translate during your talking about.
Alors juste le parcours en Suisse, combien de temps ça fait que tu es en Suisse et où tu en es actuellement?
Oh, I'm here since 1 year. Mm-hmm. I come here in 11 July.
Et donc ça fait un an qu'il est ici en Suisse et puis il est arrivé le 11 juillet.
And I stay 1 month and a half in Geneva.
Il est resté un mois et demi à Genève.
After that, I ask for asylum. I go.
Ah, oui, et puis après, à la fin de ça, il a demandé l'asile.
I went to Valorbe and I stay 1 week.
To
Valorbe.
Valorbe.
Valorbe, ok. Et puis il est resté à Valorbe pour
of course, with
une semaine.
Association's name 316.
Avec l'association 360.
And it's okay.
Ok, c'est de la Suisse, c'était le premier pays ou bien tu étais tombé dans un autre pays avant?
I ask for visa from my country to Switzerland.
Ok.
Il a demandé un visa depuis son pays, la Tunisie, à la Suisse.
And they accept because of what happened in my country.
Et ils ont accepté par rapport à ce qui se passait dans son pays.
D'accord. Et actuellement, c'est à quel stade ton évolution, enfin, en Suisse? Comment ça se passe en Suisse?
Well, it's very hard.
Ouais.
C'est très difficile.
Of course, it's very hard. So, you leave your country, you leave your family, friends, school.
C'est difficile de fuir son pays, ses amis, sa famille, pour découvrir forcément aussi de nouvelles villes et puis un nouveau pays.
But I try to be in this society.
Et il essaye du coup, effectivement, de s'intégrer dans cette nouvelle société.
Mm-hmm.
Il y a un aspect des choses qui me paraît aussi très important à signaler, c'est que lorsque ces personnes partent de leur pays, c'est souvent aussi une rupture avec la famille qui apprend l'orientation à ce moment-là. Parce que ces personnes ont été arrêtées, parce que ces personnes ont été emprisonnées, la famille n'était pas au courant, parce qu'on n'est pas très à l'aise pour parler de ces choses-là dans sa famille. Donc ça fait aussi une rupture de plus. La rupture avec la famille, la rupture avec le pays, et j'arrive en Suisse dans l'espoir d'y obtenir une protection, dans l'espoir d'y obtenir de la sécurité, et ces personnes souvent se retrouvent dans des foyers, se retrouvent dans des centres de requérants d'asile, et dans ces centres, tout le monde n'est pas n'y voit pas la vie en rose de la même manière que nous la voyons en tant que gays, en tant que LGBT. Et souvent, ces personnes revivent dans le centre dans lequel elles habitent de l'homophobie, du harcèlement, des insultes, voire des viols pour les personnes trans. Mmh. C'est décrit dans l'étude. Et du coup, elles arrivaient chez nous avec l'espoir d'être en sécurité et elles ne le sont pas.
Voilà, justement, alors c'est j'ai retrouvé un peu où je voulais en venir. C'est vrai que quand on quitte, c'est déjà quitter son pays. De base, et ensuite quand on arrive dans un centre de réfugiés, on va à Valorbe. On va dire que pour nous déjà Valorbe c'est assez excentré, c'est dans un endroit où on n'a pas nécessairement des liens faciles avec les associations qui se trouvent peut-être souvent en ville. C'est des endroits assez compliqués. Comment t'as vécu l'arrivée dans un centre, encore on se retrouve encore dans un centre pour réfugiés?
Same the prison.
Ouais,
comme la prison. I remember my month in my country, so in depression for 3 days.
Ouais.
Yeah. After that, I try to.
Okay.
To go and to stay out. To talk.
Alors c'est ça qu'on pourrait dire aussi pour les associations. Et c'est déjà que ces personnes quand elles arrivent, elles n'aient pas besoin de rester dans ces centres dans lesquels finalement elles sont encore dans le même contexte.
Oui, je tiens à signaler d'ailleurs que moi je collabore avec l'EVAM dans le canton de Vaud, et que d'abord, dans un premier temps, quand ces situations arrivent, d'homophobie, de harcèlement ou de violence physique, les éducateurs ou les personnes qui travaillent dans ces centres ont la bienveillance de proposer une chambre, de proposer un endroit isolé des autres, oui, mais ça simplifie pas la situation parce que tout d'un coup la personne devient une personne privilégiée, une personne pour qui on fait plus que les autres, et du coup les VAM toujours, je suis quelques situations, met à disposition des appartements, c'est vrai.
D'accord.
Pour ces personnes qui sont en danger dans ces centres de requérants.
D'accord, donc on revient pour le dire, donc en fait ils quittent leur pays, ils retombent dans un centre de requérants dans lequel la violence continue, l'homophobie continue. Il faut donc trouver des solutions à Genève, asile LGBT Genève, où vous travaillez aussi.
Il y a eu à un moment donné une réflexion de savoir s'il fallait créer un espace, des appartements dans un immeuble où on pouvait rassembler les personnes LGBT, mais on s'est vite rendu compte que c'était en fait les mettre en lumière et stigmatiser davantage, et c'était pas du tout le but recherché, parce que le but c'est pas de outer les personnes qui ont pas envie de l'être, c'est juste qu'elles puissent le vivre dans leur chair et dans leur vie au quotidien de manière détendue et libre et pas dans la peur. Mais c'est vrai qu'on a la même approche, ça veut dire qu'il y a un appui qui est fait pour essayer auprès de l'hospice général d'obtenir la possibilité qu'ils soient mis dans un appartement individuel. Mais comme il y a de moins en moins de personnes maintenant qui sont dans les centres, parce que ça a baissé un peu le nombre de demandes qui parviennent chaque mois, il y a un petit tassement. D'accord. Ça va remonter en été, mais il y a moins de monde maintenant dans les centres d'accueil. Il y a de plus en plus qui ont des appartements, donc ça se noie un peu dans. C'est pas possible d'identifier, de dire voilà, si vous avez un appartement seul, c'est que vous êtes un gay ou une lesbienne. C'est pas perçu de cette manière-là parce que c'est la pratique qui se développe.
Éric.
Je pense que c'est important que je dise deux mots sur l'homophobie, parce que j'ai vécu une expérience il n'y a pas plus que 15 jours où nous avons fait à Lausanne une action de visibilité en traversant le quartier du Flon à minuit avec des sœurs de la perpétuelle indulgence. Je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont des personnages formidables qui luttent contre l'homophobie, contre la sérophobie, etc. Nous étions quatre à les accompagner. En une demi-heure, nous nous sommes fait insulter 5 fois. PD de merde, sale PD, dégage, et en arabe et dans d'autres langues. Donc c'est pour vous donner la température des rues de notre pays.
Voilà.
Cette homophobie, lorsqu'on est visible, elle s'active et on la découvre lorsqu'on est concerné parce que moi je suis gay. On m'insulte pas quand je marche tout seul dans la rue, mais là dans cette situation, j'ai pu déguster et goûter au bonheur que vous pouvez imaginer.
D'accord. On va en parler encore dans quelques instants. On va venir un petit peu plus précisément sur Asile LGBT Genève, qui a différents axes aussi. Il y a quand même quelque chose qui est prévu. Il y a des projets. Il y a aussi tout un côté de parrainage qui est mis en place. On va en parler d'ici quelques instants dans cette émission. Juste le temps d'écouter Coldplay dans Chromosome X. Bienvenue à tous.
How long before you decide, or before I know what it feels?
Vibration Gay Radio, on est de retour dans cette émission Chromosome X, une émission spéciale où on parle des migrants LGBT et de leurs conditions. Nous sommes justement aussi accompagnés par certains migrants qui sont venus parler. D'ailleurs, merci beaucoup parce que c'est de très beaux témoignages, ça fait plaisir et ça permet aussi au grand public de connaître cette situation. C'est des choses que l'on ne connaît pas vraiment. On va revenir un petit peu plus précisément sur Asile LGBT Genève avec David sur ce projet donc, qui date depuis le début de l'année. Il y a donc différentes choses qui se mettent en place, c'est en plein développement. Il y a notamment des axes de développement aussi, des objectifs qui sont mis en place en ce moment.
Ouais, c'est exact. L'étude qui a été menée a conduit à identifier trois axes d'intervention possibles pour améliorer la situation. Le premier, c'était d'offrir cet appui individuel au cas par cas lorsque il y a un cas de violence, lorsque il y a aussi un besoin de traitement. Hein. On n'a pas beaucoup parlé des personnes avec les questions d'identité de genre et qui sont en phase de transition, par exemple, et qui ont besoin d'hormones, par exemple, et qui ne peuvent pas interrompre ce processus. Donc un appui individuel, elles ont un endroit où elles peuvent venir chercher de l'information et ensuite être guidées vers les personnes ressources à Genève. Donc c'est l'appui individuel. Le deuxième aspect, c'est la sensibilisation du personnel qui gravite autour de l'asile. Et là, très ambitieux, ça s'est pas encore vraiment fait, mais c'est de venir sensibiliser dans les centres d'accueil, de venir parler devant les réfugiés, les D'accord. migrants, avec un flyer en plusieurs langues et de venir leur dire parmi vous, vous savez peut-être pas, mais il y en a certains qui seraient intéressés de venir le jeudi après-midi au Paki auprès de dialoguer. On a des heures d'ouverture et vous pouvez venir nous rencontrer. Donc de faire de la publicité pour le projet lui-même, c'est le deuxième volet. Et le troisième, c'était une recommandation de l'étude, c'est de mettre sur place un groupe de pères, un groupe de parrains, qui est un espace de soutien. Donc c'est l'association, c'est la fédération des associations LGBT qui a contacté plein de gens à Genève sensibles à la question LGBT et de leur dire voilà, si vous voulez, vous pouvez parrainer un réfugié, c'est-à-dire passer un peu de temps avec lui, lui offrir la possibilité de parler, d'avoir un autre univers que l'environnement dans lequel il est habituellement.
Il a un contact privilégié avec une personne, ça Exactement. Lui permet d'avoir un lien, et parce que finalement ces personnes, quand elles arrivent, elles n'ont plus vraiment de lien, comme on l'a dit tout au début. Elles ont quitté la famille.
Alors, elles ont le lien de leur communauté. Ça, elles l'ont très fort.
Mais elles ont aussi un secret. Voilà. Elles ont quand même ce secret.
Exactement. Exactement.
Voilà. Alors, justement, toi, David, tu es parrain d'un Afghan, c'est juste.
Oui, c'est juste.
Qui est venu avec toi aujourd'hui.
Qui est là à côté de moi, oui. Qui s'appelle Milan.
Et qui, finalement, est intéressé à nous parler quelque peu aussi. Peut-être lui demander simplement comment. Qu'est-ce que ça fait et quelle est l'importance d'avoir un parrain aussi, d'être parrainé? Et donc c'est Paul qui va à nouveau traduire.
Okay.
Hello.
Hello. I'm Milan and according to your question about the relation with the like mentorship or parrain. Yes, it's very important and interesting when you grow up in the country or in the area of the earth that to be gay or LGBT guys, it's a kind of sickness. All the people, they called it like a sickness and it's not normal.
Oui, quand on est né effectivement dans une région du monde où les personnes LGBT sont identifiées comme des personnes malades ou en tout cas des personnes qu'il faut soigner, et forcément c'est pas très simple.
And finally you can't understand what is it and what's your feeling inside of your heart or your mind and you don't know the way, it's not clear at all.
Alors effectivement que c'est un sentiment qui est à l'intérieur de nous et puis qu'on ressent très fort, et de l'identifier, de le comprendre, que effectivement c'est pas quelque chose qui se soigne.
And finally, you don't have any information about this kind of feeling in your mind. And when you arrive here and see the situation, like freedom situation in the Europe, and see the people and the government, they pay attention and they take care about LGBT or others guys.
Et puis en arrivant ici, effectivement, de découvrir que sans avoir eu la possibilité dans son esprit de comprendre qu'effectivement ce sentiment était quelque chose de tout à fait sain et pas une maladie, pas quelque chose qui se soigne, et aussi de se rendre compte que dans un pays comme en Suisse, que les gouvernements, que les personnes prennent attention et font attention aux personnes LGBT, et que c'est une question qui est posée et qui est traitée. Mm-hmm.
And after that, the question came in your mind: what is it, and what's my right here? Can I live like normal life here in Europe or not?
Et puis la question suivante qui arrive, c'est: est-ce que je vais pouvoir avoir une vie normale dans un de ces pays ici en Europe?
Et avoir des droits.
Et avoir des droits.
Without any bad feeling about maybe people kill you or not and around you.
Et de pas avoir peur de se faire tuer avec n'importe qui passe autour de soi, effectivement.
Mm-hmm. And it's a good way to have like a guy like mentorship next to you, like a friend, very close friend, to ask whatever you is in your mind, like a question.
Et c'est très important d'avoir quelqu'un auprès de soi, d'un peu privilégié, pour lui poser toutes ces questions.
Mm-hmm. And when it's very important, he knows very well the rule in the Swiss and in the Europe for the guys from LGBT, and can help you and give you some suggestion or advice and make the way for you clear.
Et en plus, cette personne peut effectivement, en connaissant les lois et puis le fonctionnement du pays, apporter des conseils qui sont clairs et précis sur la situation.
Because however you open your mind too much, we can't never talk about these questions or this topic with the guys from our country or our area in the earth, because we grew up with that culture, and we know very well, and nobody pay attention to this kind of topic.
Parce que effectivement, c'est pas des sujets qu'il peut aborder avec les autres personnes qui viennent de son pays ou de la même région que
aussi,
lui et culture, parce que c'est pas des sujets qui peuvent être abordés dans une conversation avec du coup les gens qui sont dans son entourage.
And finally, it's the best thing. And the interesting thing that you can do with a guy like very close friend to talk about the thing that you are shy to talk with the guy from your country or your area in the earth.
Et c'est effectivement très important de pouvoir en parler du coup aussi avec cette personne avec qui il a une relation plus privilégiée.
Alors justement, on peut revenir peut-être sur la question. Merci, hein, merci. On peut reposer aussi la question à David. Toi, tu le sens aussi quand il dit ça, tu ressens aussi cette importance de ton côté?
Ouais, bon, c'est absolument, c'est tout à fait clair. Mais là, il faut bien dire que la plupart du temps qu'on passe ensemble, c'est détendu, c'est chaleureux, on boit un verre.
Mais je crois qu'il y a ce besoin
aussi.
Ouais,
exactement, aussi, exactement. Besoin, hein. Donc là, on est dans une dimension sérieuse parce qu'il nous raconte ce qu'il a vécu dans son pays et la situation dans laquelle il se trouve, qui est vraiment préoccupante. Et on essaye de quand on se voit à Genève, toutes les semaines, où on s'écrit, où on se parle, c'est de passer un bon moment ensemble et où il va pouvoir me raconter un certain nombre de choses qu'il raconte simplement pas à ses
Et je crois que ça c'est quelque chose qui est important aussi, parce que c'est sortir du contexte, de la lourdeur, de tout ce qui peut porter sur les épaules à ce moment-là. Il y a un moment où on peut parler de choses et d'autres et...
C'est hyper important, et c'est vrai qu'au début, quand le projet s'est lancé, on a fait un long papier, un contrat, avec tout un tas de points comme ça à discuter, parce que dès le début, Anne Harvey qui a fait l'étude, elle a tout de suite rendu attentif le fait qu'on créait une situation déséquilibrée quand on avait un parrain et un migrant. Et il fallait le savoir depuis le début, on n'est pas dans une situation vraiment égalitaire, parce qu'il y a un qui est en attente d'une réponse, et puis le parrain, il est là avec une attitude un peu qui peut être un peu supérieure, un peu paternaliste, et il faut en avoir conscience. Donc il faut, en tant qu'humain, on essaye bien sûr d'avoir une attitude extrêmement neutre et pas du tout condescendante ou paternaliste, mais la réalité, c'est qu'il y a un qui détient un pouvoir, il y a un autre qui est en attente de réponse. Donc on s'est dit, on va essayer de voir comment ça fonctionne ce projet. Ça va durer 6 mois. On fait tous les 2 mois une rencontre avec les coordinateurs du projet Asile, avec une voix totalement libre pour le réfugié de parler de comment il sent la relation, et on fera un bilan à la fin de l'année pour voir si ce système de parrainage fonctionne ou pas, sachant que un point aussi peut-être à relever, c'est que le réfugié en général ou la réfugiée essaie d'avoir deux parrains plutôt qu'un seul pour pas avoir une relation trop relationnelle de fusionnelle ou de une seule personne qui est en lien, donc du coup et puis c'est un groupe puisqu'on se retrouve régulièrement le groupe LGBT et le groupe des parrains.
Les
migrants tous ensemble et on fait un repas, chacun amène de la nourriture, c'est le but, c'est aussi d'avoir un espace et un groupe.
OK. Ça c'est on imagine que c'est quelque chose qui est déjà important parce que on le voit, on l'a vu avec Alexandrine tout à l'heure, c'est juste hein, c'est un long combat, c'est 3 ans de combat. Alors si on peut avoir des moments où on peut un petit peu sortir, parler et puis un petit peu être loin de toute cette pression, c'est bien aussi hein.
Oui.
J'imagine.
Juste dire encore une chose qu'on n'a pas dit, mais c'est pour donner une idée de l'importance de cette situation, c'est que moi j'avais fait un petit calcul en fonction des personnes migrantes déclarées au service d'État à la migration à Berne en novembre 2016, et avec un petit calcul considérant que une personne sur 9 environ est concernée par une orientation sexuelle minoritaire, ça ferait à peu près 13 000 personnes dans notre pays. Et au travers des...
Donc des migrants, hein, des migrants...
Migrants LGBT.
Voilà, qui sont concernés.
Migrants
voilà.
LGBT, oui. Environ 13 000 personnes. Ouais, ben. Et vous dire juste que les efforts qui sont faits et les initiatives qui commencent à permettre de créer des groupes de parrainage, d'en parler à voguer avec des projets qui verront le jour cet automne, j'espère, nous ne répondons qu'à une infime partie de ces 13 000 personnes. Donc ça signifie que vivent dans l'invisibilité des personnes probablement en situation de désarroi, désarroi social, désarroi au niveau de la santé, etc., etc. Et que merci de faire cette émission parce que ça permet d'éveiller des consciences.
C'est tout à fait juste. Je me permets de relever, c'est un des points qu'on a identifié dès le début. C'est on s'est dit il y aura parmi cette population-là des gens plus ou moins débrouilles, comme on pourrait dire, et qui vont chercher sur leur smartphone quelle est l'association homo dans leur ville où ils sont, et puis ils vont faire le pas, ils vont venir.
C'est exactement le cas,
mais c'est pas forcément eux qui sont les personnes les plus vulnérables. Et nous, l'association, là, on essaye d'aller dans les centres parce qu'on aimerait identifier celui qui a pas.
Vous avez ce petit flyer, justement aussi, notamment pour en parler,
pour être sûr qu'il y ait aussi les gens qui sont le plus en besoin d'identification, qui sachent que ça existe.
Il y a un autre point aussi. Est-ce que vous êtes en contact avec aussi des personnes qui sont encore dans leur pays et qui ont des problèmes justement avec la culture, et enfin ils sont en danger, et est-ce que vous avez des liens aussi ou pas du tout?
Alors moi j'ai des liens parce qu'il se trouve que j'essaie de voyager autant que possible et que je voyage essentiellement pour l'instant au Maroc, et j'ai rencontré, parce que j'ai les réseaux sociaux, les applications qu'on connaît, Grindr, Gay Romeo, et que parfois on est sollicité par des jeunes qui cherchent un plan, qui cherchent une rencontre, etc., qui cherchent de l'argent. Et du coup, j'avais rencontré dans ce contexte-là, en mettant une réserve que j'avais pas l'intention d'un plan cul, mais que je souhaitais boire un café avec lui. Il s'appelle Matar, et je vais lui envoyer le lien de l'émission, d'ailleurs. Et il m'a permis d'entrer dans un réseau de prostitution de personnes d'origine du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Sénégal, et ces personnes sont en stand-by, on va dire, pour l'instant, à Marrakech, à guichet le touriste par le biais des applications, à faire du commerce de sacs de cuir, etc., etc., pour s'en sortir. Et ces personnes ont bien l'intention de poursuivre leur voyage dès que possible, dès qu'elles auront les moyens, pour arriver en Europe.
Donc elles ont décidé déjà de partir en Europe,
mais
en attendant...
Voilà, il faut qu'elles se constituent une réserve d'argent, parce que ça coûte cher. C'est presque, je vais être provocant, mais c'est presque un luxe de traverser la Méditerranée en bateau.
Et en plus, avec les risques que ça engendre. Hein.
Et puis, excusez-moi, j'ai encore une autre... en ce moment, je suis en train de créer des contacts avec le Cameroun, dans lequel il y a une association qui s'appelle Jeune Afrique de l'Ouest. Et dans cette association, que je salue parce que je vais aussi leur envoyer le lien. Il est question de former des professionnels de la santé et des professionnels du social à accueillir des personnes LGBT sans les juger, sans les mépriser, sans les rejeter, etc., etc. D'ailleurs, j'espère avoir la chance, c'est mon projet, de participer à la formation de ces personnes.
D'accord.
Sous forme d'échange, mais voilà.
Alors, je venais sur cette question parce que c'est un peu d'actualité avec ce qui se passe en Tchétchénie notamment, parce que tout à coup, les caméras et les médias se sont tournés sur cette problématique, hein, ce qui se déroule en Tchétchénie. Et donc, du coup, il y a des projets qui se sont lancés en disant notamment ces personnes qui veulent partir, il faut pouvoir les accueillir ici. Alors après, voilà, ça c'est toute une question qui s'est lancée notamment avec ce mouvement No Camps, c'est-à-dire pas de camps, et qui a notamment fait une manifestation. On va justement en parler avec Emeric qui est aussi notre chargé de prévention à l'antenne SIDA Vallée Romand, qu'on va retrouver aussi pour la partie santé sexuelle tout à l'heure. Emeric qui n'était pas là, pas disponible aujourd'hui, donc on va le retrouver en petite interview. Il voulait en parler un petit peu de la suite de ce mouvement qui, pour l'instant, semble un petit peu s'essouffler, parce que c'est vrai que c'est au moment où il y a les caméras qui se tournent sur ce problème, et maintenant les caméras n'ont plus, je crois que lors de la manifestation, elles sont plus vraiment, les médias sont plus vraiment venus, donc c'est aussi une grande question qu'il faut aborder. Et surtout dire quelque chose, c'est que la Suisse n'a pas encore accueilli de migrants de Tchétchénie, selon ce qui a été dit. Par contre, en France, ça a été le cas. Est-ce que maintenant c'est...
Juste dire une chose, on peut dire aussi que depuis que M. Macron fréquente M. Poutine, on en parle beaucoup moins.
Hein, oui, c'est vrai qu'après, c'est aussi selon au gré des vents de la politique. Alors justement, on va en parler donc avec Emeric qui veut revenir donc sur ce sujet de No Camps, le mouvement donc en ce moment.
J'avais envie d'en dire un petit mot, parce que dimanche 11 juin, il y a une mobilisation à Genève avec plusieurs associations romandes contre les camps qui sont actuellement en Tchétchénie. Et puis, j'ai eu la possibilité d'aller représenter le mouvement No Camps.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est justement ce mouvement No Camps ?
Alors, le mouvement No Camps, c'est un mouvement qui est devenu assez spontané, qui à la base est parti d'une discussion au sein de l'association vaudoise Vogue. Et puis, c'est voulu être un mouvement autogéré, donc que chacun et chacune qui a l'envie de s'investir puisse s'investir. Et c'est un mouvement qui est actuellement soutenu par plusieurs associations romandes, dont la Fédération Genevoise, Vogue, Alpagué, Lilith et encore beaucoup d'autres. Et puis l'idée, c'est vraiment que ça ne soit pas rattaché à une association, mais que chacun et chacune se sente libre d'apporter son soutien, de proposer des activités, de récolter éventuellement des fonds, de proposer éventuellement une soirée thématisée. Voilà, c'est un peu un mouvement roman, du coup.
L'objectif, c'est de sensibiliser les gens ici à ce qui se passe en Tchétchénie ?
Alors l'objectif premier a été effectivement de sensibiliser les gens ici, mais de sensibiliser aussi, surtout nos politiciens et politiciennes suisses et les médias. Parce que au mois de mars ou avril, je ne sais plus exactement quand les premiers faits nous sont venus aux oreilles, ça a été perçu comme des rumeurs, donc les médias n'en parlaient pas. Les politiciens et politiciennes n'ont pas pris de position. Et puis, nous, on ne pouvait pas rester muets face à ça. Il y a trop souvent dans l'histoire des horreurs qui sont passées telles que celles-là. Il y a trop souvent dans l'histoire où les citoyens et citoyennes sont restés muets. Et puis, c'est plus tard, quand on a pris conscience des horreurs, qu'on a pris des positions. Et nous, on ne voulait pas reproduire cette histoire-là. Du coup, on a créé le mouvement. Et puis... donc l'idée était vraiment au départ d'avoir une communication un peu violente auprès des médias et auprès de la politique suisse. Et puis ça a permis d'avoir du coup différentes interventions dans les médias, le 12h45 ou le 19h30, je ne sais pas exactement. Donc la RTS, on a parlé deux fois dans leurs journaux hebdomadaires. Donc ça, on était assez satisfaits, c'est qu'on ne laisse pas ça muet. Et puis, au niveau de la politique, on attendait vraiment une position claire de la Suisse. Et puis, on a reçu, donc, il y a quelques temps, une position de la part de M. Burkhalter au Conseil fédéral, qui nous a envoyé un courrier pour nous dire que, bah, que la Suisse s'engageait pour la protection des droits de l'homme et que les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre, elles en faisaient partie. Et puis, dans la lettre, il y a vraiment une phrase assez explicite, et je vais plutôt même la citer. Une persécution sur la base de l'orientation ou de l'identité sexuelle peut, en Suisse, constituer un motif pour la reconnaissance du statut de réfugié selon l'article 3 de la loi sur l'asile. Dans chaque procédure d'asile, il est examiné de manière individuelle si le requérant d'asile court un risque de persécution en tenant compte des circonstances personnelles et de la situation dans son pays d'origine. Et à la fin du courrier, M. Burkhalter termine par confirmer que la Suisse va continuer de suivre la situation des personnes LGBT en Tchétchénie. Donc là, on est assez satisfait, donc on a quand même une position claire de la Suisse. Maintenant, on aimerait que ce soit plus actif. On aimerait que la Suisse accueille des réfugiés tchétchènes, pas que ce soit juste mentionné sur notre courrier, comme quoi dans les droits de l'homme, c'est explicité et la Suisse soutient ça. On aimerait vraiment, comme la France, qui est un pays voisin qui a accueilli le premier réfugié tchétchène, ça puisse se passer en Suisse et qu'on puisse, dans les associations LGBT suisse romande ou suisse alémanique, donner un soutien pour pouvoir entendre ces personnes. On a bien conscience que c'est pas forcément simple. D'ailleurs, c'est la thématique aujourd'hui de l'émission des migrants et migrantes LGBT. Et je pense que là, on est totalement dans le sujet. Et je pense qu'il est important qu'il y ait des choses qui se fassent à présent. Mais le mouvement donc est assez satisfait. On a conscience que plus on peut pas faire. Donc éventuellement des manifestations ou autres. Mais c'est les médias qui choisissent s'ils souhaitent en parler ou pas. Malheureusement, à la manifestation du dimanche dernier, il y avait pas de presse. Donc j'étais pour ma part un peu déçu qu'on n'en parle pas plus, qu'il n'y ait pas plus de remous par rapport à toutes ces histoires, parce qu'on touche quand même à la dignité humaine et à l'humanité. Et pour moi, c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être en 2017. Du coup, au sein du mouvement, on a choisi de se réorienter, parce qu'on a bien conscience que l'aide à l'extérieur du pays, c'est hyper important. Que les pays environnants prennent position, c'est hyper important pour faire pression sur Vladimir Poutine ou le président de la Tchétchénie. Mais on avait vraiment envie à présent d'être présent sur le terrain. Et du coup, pour ça, le mouvement a pris contact avec l'association Russian LGBT Network, qui œuvre directement sur place et qui, elle, possède une hotline où toute personne LGBT du pays peut les contacter pour ce qu'ils rencontrent. Et puis, suite au contact qu'on a eu avec une personne là-bas, on a pris conscience vraiment que c'était le premier contact, la première possibilité de ces personnes tchétchènes de pouvoir avoir une écoute déjà, qu'on prenne en considération ce qu'ils vivent et qu'on puisse leur offrir des possibilités après de pouvoir éventuellement quitter leur région ou au mieux leur pays, éventuellement qu'ils puissent eux mettre sur place des hébergements temporaires ou autres. Et du coup, maintenant, l'objectif, c'est vraiment qu'on leur apporte des finances à cette association, que cette association puisse créer des projets avec le soutien d'associations extérieures au pays. Alors du coup, on invite vraiment chacun et chacune à faire un don. On va ouvrir un compte postal très prochainement pour pouvoir récolter ces dons avant de pouvoir les reverser à cette association. Et on invite aussi chacun et chacune qui est motivé à proposer une activité de récolte de fonds, de pouvoir faire une soirée thématisée et puis de verser les fonds à nos camps ou de pouvoir à un festival qui souhaite aussi faire un geste ou peu importe, toute source de revenus au niveau de cet argent serait intéressante pour le mouvement pour pouvoir aider sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment le prochain objectif qu'on se fixe, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler les prochains mois. Je pense qu'il y aura encore des actions de terrain et de visibilité pour montrer qu'on lâche rien, que ça continue et que malgré le silence des médias, il n'y a pas tout le monde qui reste muet et qu'on a décidé de se mobiliser par rapport à ça.
On peut retrouver des informations sur Internet notamment ?
Alors en tout cas sur le site de Vogue, donc il y a toutes les informations par rapport à ce mouvement. Et puis après, là, on est en train de travailler sur... on aimerait établir un flyer pour ces récoltes de dons. Moi, j'ai passé le week-end passé à repasser des t-shirts. Donc une vingtaine de t-shirts avec des logos, les logos de l'association, les logos du mouvement. Donc il y a toute une communication qui est en train de se mettre en place, mais pour cette communication, il faut aussi des fonds. Et vu que c'est un mouvement autogéré, on attend éventuellement des fonds des partenaires ou du public touché par la thématique pour qu'on puisse faire des choses. Et plus on aura de fonds, plus de choses seront possibles à faire. Et à long terme ou à moyen terme, pourra permettre de faire des actions sur le terrain en Russie, en Tchétchénie, et pouvoir éventuellement accueillir quelqu'un en Suisse.